BW. Vue d'Allemagne.
Das Gebot der Stunde ist die Einheitsfront aller Werktätigen, um dem Faschismus zurückzuwerfen.
La nécessité à cette heure, c'est le front uni de tous les travailleurs pour repousser le fascisme. Clara Zetkin, devant le Reichstag en Allemagne en 1932, un des rares enregistrements audio de cette militante allemande, féministe, pacifiste et à l'origine de la Journée internationale des femmes le 8 mars. On se penche sur son histoire dans un instant. Et puis grand reportage de la semaine au Mexique, les personnes migrantes qui passaient dans le pays pour rejoindre les États-Unis sont de plus en plus nombreuses à y rester, à demander l'asile sur place. Reportage dans 5 minutes. Vous écoutez Vue d'Allemagne, willkommen, soyez bienvenus. On fête donc la Journée internationale des femmes cette semaine, le 8 mars, dans le monde entier. Journée de fête et d'action aussi et surtout pour les droits des femmes dans le monde entier. Mais saviez-vous que cette journée avait donc été initiée par une Allemande ?
DW.
Elle s'appelle Clara Zetkin, née Clara Eisner en 1887 dans la Saxe, dans l'est de l'Allemagne. Née dans un petit village qui vit de l'industrie textile, Clara Zetkin voit le jour dans une famille aisée. Son père est instituteur, sa mère déjà féministe. Mais elle voit dans quelles conditions très dures les ouvrières du textile travaillent, l'injustice devant ses yeux. Cela la marquera et jouera certainement un rôle dans la suite de sa vie. Clara Zetkin ira à l'école, pas commun pour une femme à l'époque, mais ses parents déménageront à Leipzig justement pour qu'elle puisse étudier, devenir institutrice. À 18 ans, Clara Zetkin est professeure, rencontre son premier mari, Ossip Zetkin, révolutionnaire russe. Elle découvre le socialisme, s'éloigne de sa famille, du féminisme qu'elle juge bourgeois. Elle rejoint Paris avec son mari qui a été expulsé d'Allemagne.
DW.
Mais son mari meurt en 1889. Clara Zetkin a alors deux enfants. Elle les élève seule, vivant de ses activités de traductrice ou de soignante. C'est à ce moment-là qu'elle s'engage publiquement aussi et au sein du Parti socialiste pour les droits des femmes. En 1889, elle prononce un discours engagé et inattendu au congrès fondateur de la Deuxième Internationale ouvrière. Clara Zetkin y parle du travail des femmes et de leur rôle dans la lutte des classes. Discours courageux et révolutionnaire pour l'époque, raconté il y a quelques années sur notre antenne, Florence Hervé, journaliste, auteur, enseignante et auteur du livre sur Clara Zetkin, Dort kämpfen, wo das Leben ist.
C'est vrai que Clara Zetkin a brisé des tabous. Elle a choqué terriblement à son époque par rapport à son engagement pour le droit du travail des femmes, parce qu'on estimait que c'était une chose horrible de laisser les femmes travailler et que la plupart des ouvriers étaient contre le travail des femmes, disant que ça favoriserait la prostitution. Elles étaient les mères de famille, donc elles devaient rester au foyer.
Clara Zetkin fondera ensuite le journal Die Gleichheit, l'égalité. Son engagement politique, féministe et pacifiste se poursuit. Elle lance bientôt une section femmes du Parti social-démocrate allemand, le SPD, malgré les interdits et les critiques. Elle sera d'ailleurs une des premières femmes dans l'équipe dirigeante du parti.
DW.
1907, Clara Zetkin organise la première internationale des femmes socialistes. L'Assemblée adopte une résolution sur le droit de vote des femmes.
Au sein du Parti social-démocrate allemand, on se moquait beaucoup de cette histoire de droit de vote et on se moquait surtout de l'engagement des femmes en politique. Il y en a beaucoup qui ont vraiment qualifié Clara Zetkin de mégère, de je ne sais quoi.
1910, on en arrive au cœur de notre sujet du jour. C'est cette année-là, après la première édition réussie en 1907, que la deuxième internationale des femmes socialistes se tient à Copenhague. Clara Zetkin tient un discours dans lequel elle propose de créer une journée internationale des femmes s'inspirant d'une idée américaine. Il n'y a pas de date précise encore, mais dès 1911, le 19 mars, 1 million de femmes européennes descendent dans les rues. Suivront des journées d'action en Russie notamment, des mobilisations ouvrières dans d'autres pays aussi. Le 8 mars 1921, le dirigeant communiste Lénine décide en premier de faire de cette journée celle internationale des femmes. en souvenir de la grève générale et des manifestations de femmes russes à Petrograd en 1917, à cette date, justement. Cela se fera ensuite dans d'autres pays, majoritairement socialistes, d'abord les années suivantes, avant que l'Assemblée générale des Nations unies officialise la date en 1977. Clara Tsetkin, elle sera élue au Reichstag en Allemagne de 1920, tentant de combattre la montée du nazisme. En vain, en 1932, doyenne du Reichstag, désormais dominée par le NSDAP, le parti nazi, elle prononce le discours d'ouverture du nouveau Parlement. À 75 ans, vous l'avez entendu tout au début de cette émission, courageusement, elle fustige le nazisme et appelle à le combattre face aux chemises brunes devant elle.
Devant cette impérieuse nécessité historique, toutes les opinions politiques, syndicales, religieuses, idéologiques qui nous entravent et qui nous séparent doivent passer au second plan. Tous ceux qui sont menacés, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui aspirent à se libérer doivent faire partie du front uni contre le fascisme et ses fondés de pouvoir au gouvernement.
Clara Tsetkin sera contrainte à fuir le pays alors qu'Hitler arrive au pouvoir en 1933. Elle meurt peu de temps après, le 20 juin 1933, à Moscou, où elle sera enterrée sur la place Rouge. Vue d'Allemagne, deuxième partie, grand reportage. On part maintenant en direction le Mexique. Le pays est confronté depuis des années à des départs massifs et à d'importants flux migratoires traversés par des personnes migrantes d'autres pays qui veulent rejoindre les États-Unis. Mais c'est un phénomène nouveau là-bas. De plus en plus de personnes décident de rester sur place au Mexique et demandent l'asile. En 2023, un record absolu de 140 000 demandes a été atteint. De pays de transit à destination finale, Julien Delacour pour ce reportage au Mexique.
Je cherche la paix, comme ça. Ma décision, c'est rester ici.
Rester au Mexique, c'est devenu une réalité pour de plus en plus de personnes migrantes. Historiquement, le pays a toujours été une étape dans la route vers les États-Unis, mais avec la crise migratoire, il est en passe de devenir l'un des principaux refuges du continent. À Tapachula, dans l'extrême sud du Mexique, Dani travaille comme coiffeuse à son compte depuis un an. Après s'être fait expulser de Guyane française, l'haïtienne de 28 ans confie ne pas avoir eu de mal à obtenir sa carte de résidence permanente et reste optimiste quant au Mexique.
Pour moi, c'est bien. J'ai trouvé des clients, un peu d'argent, je paye mon loyer et voilà.
Pour d'autres, le chemin est plus long et plus pénible. Collée à la frontière avec le Guatemala, Tapachula concentre l'écrasante majorité des demandes d'asile avec plus de 77 000 en 2023. Comme cette famille qui a fui l'Honduras à cause des violences, ce sont aujourd'hui près d'une centaine de personnes qui attendent, documents à la main, à l'entrée de la COMAR, la Commission nationale aux réfugiés.
Cela fait 3 mois et ce n'est pas terminé. Aujourd'hui, on a un rendez-vous, ensuite on aura notre entretien enregistré auprès de la COMAR pour qu'ils nous donnent la résolution positive. Et là, il faudra continuer auprès de la migration pour recevoir notre carte de séjour.
En 2023, la Commission a donné une suite favorable à 68% des demandes d'asile sur un total de 140 982. Un record absolu, analyse Andrés Ramírez, coordinateur général de la COMAR.
Depuis 2021, le Mexique se retrouve, après les États-Unis et l'Allemagne, en troisième position des pays les plus sollicités pour y obtenir la condition de réfugié. Cela ne veut pas dire que le Mexique n'est plus un un pays de transit, mais qu'en plus de cela, c'est maintenant un pays de destination et d'asile.
Il y a 10 ans, la Coma recevait environ 800 demandes à l'année, un chiffre désormais atteint en 1 ou 2 jours. À l'échelle du continent, ils sont de plus en plus nombreux sur les routes de l'exil, qu'ils proviennent d'Amérique latine, des Caraïbes ou même d'Afrique, de Chine ou d'Afghanistan. L'an dernier, Washington a changé de réglementation migratoire, passant d'une politique héritée de l'administration Trump à un modèle presque aussi restrictif.
Les États-Unis ont tant de force, c'est une économie tant importante que chaque changement dans leur politique migratoire, dans leur politique d'asile, impacte fortement le Mexique, un pays qui est depuis longtemps reconnu pour sa tradition d'asile.
La tradition d'asile du Mexique est pourtant mise à l'épreuve, à l'image de la petite Haïti, installée à 2 rues du siège de la Comar en plein Mexico, des quartiers informels insalubres voient le jour un peu partout. De retour vers la frontière sud, Mario Ortega, observateur pour le Centre des droits humains Fraiba, nous explique le contexte difficile de l'état frontalier du Chiapas.
Le Chiapas s'est presque transformé en frontière sud des États-Unis et les arrestations de personnes migrantes ont augmenté. Cela implique aussi plus de risques pour les populations migrantes, plus de désespoir. Les demandes d'asile ne sont pas traitées dans les délais et pendant ce temps, certains se retrouvent bloqués pendant des mois.
Il y a près d'un an, l'incendie d'un centre migratoire de la frontière nord a fait 40 victimes parmi les migrants en détention provisoire et les autorités ont largement été accusées d'inaction. Si les arrestations et détentions sont hors des compétences de la Comar, le coordinateur Andrés Ramírez assume néanmoins écarter certains profils dans le processus d'asile.
La définition de réfugié est plus large au Mexique que dans beaucoup de pays, mais il y a tout de même des profils qui ne correspondent pas à ceux qui migrent pour des raisons économiques et aussi ceux qui veulent ensuite continuer aux États-Unis.
Dans le Chiapas, c'est Tapachula qui est le principal point chaud de la crise migratoire. Considérée comme une véritable prison à ciel ouvert, la situation est parfois tendue entre autorités, locaux et étrangers.
90, 100, 300 et...
Mais avec le temps, l'atmosphère s'est apaisée, comme ici au marché du centre-ville.
Pour nous, les commerçants, cela nous arrange un peu qu'ils migrent ici, car cela augmente un peu les ventes. Au début, beaucoup n'avaient pas confiance parce qu'ils sont migrants. On se disait qu'ils pouvaient nous voler ou on était méfiants parce qu'on ne les connaissait pas. Mais maintenant, au marché, certains ont pu trouver du travail.
Pas vraiment légal sans titre de séjour, travailler est pourtant indispensable pour survivre pendant le processus d'asile, comme nous l'explique Marlène, la mère de famille hondurienne.
Ici, ils ne paient pas bien les migrants qui n'ont pas de papiers. Mais si on ne fait rien, les bébés vont mourir de faim. Alors il faut travailler pour subvenir aux besoins quotidiens.
À l'approche des élections présidentielles au Mexique et aux États-Unis, qui auront toutes deux lieu cette année, la crise migratoire est un enjeu crucial. Les politiques de Washington sur la question pourraient encore s'endurcir et cela risquerait de saturer le système d'accueil mexicain. Julien Delacour, de retour du sud du Mexique, pour la Deutsche Welle.
Merci à Julien Delacour, mais aussi à Sandrine Blanchard, Katia Bichu-Jürgen à la technique pour Vue d'Allemagne cette semaine. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Rendez-vous à l'antenne et en podcast la semaine prochaine avec Anne Le Touzé. Et d'ici là, bonne semaine et bonnes actions en faveur des droits des femmes. À bientôt, ciao. Merci.